C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Nouvel épisode de l'histoire avec un grand I aujourd'hui, intéressons-nous à une histoire de rivalité sous la couronne anglaise. D'un côté, Marie Tudor, qui deviendra Marie Ière, issue du mariage malheureux d'Henri VIII, roi d'Angleterre, et de Catherine d'Aragon. Son père divorce alors pour se remarier avec Anne Boleyn, avec qui il aura Élisabeth Tudor, qui deviendra Élisabeth Ière. En tout, Henri VIII se mariera 6 fois. Entre Marie et Élisabeth, les deux demi-sœurs et première reine d'Angleterre, l'une après l'autre, entre 1553 et 1559, une rivalité, souvent, une collaboration. Parfois, elles seront inhumées dans une tombe commune. Pour revenir avec nous sur l'histoire de Marie et Élisabeth Tudor, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Blin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Anthony Leflair.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Première question pour nous aujourd'hui, peut-on commencer par parler d'Henri VIII, le père des demi-sœurs Marie et Élisabeth Tudor? Qu'a-t-il de spécial ce bonhomme?
Henri VIII, le huitième des Henri, roi d'Angleterre jusqu'en 1553. Henri VIII, vous l'avez rappelé Guillaume, a la particularité de s'être marié 6 fois, à 6 femmes différentes, ce qui était mal vu à l'époque.
Surtout pour un roi.
Surtout pour un roi. Et puis l'Angleterre, encore très catholique à l'époque, il était mal vu de divorcer.
Mm-hmm. Est-ce que c'était simplement possible de divorcer?
Oui, c'était possible.
Bien sûr. Mais il fallait accomplir ce qu'on appelle le grand chelem du divorce. Donc c'est une série d'épreuves. Si on le souhaite divorcer, il faut se plier à ces 10 épreuves, et Henri VIII, en tant que figure publique roi de l'époque, doit se plier au grand chelem du divorce et donc accomplir les 10 épreuves chaque fois qu'il souhaitait divorcer.
En quoi ça consiste? C'est de quel type d'épreuves, pardon?
C'est des épreuves qui sont organisées par le Vatican. Hein, donc ça implique aussi que Henri VIII, à chaque fois qu'il divorce, doit se rendre au Vatican pour participer à ces épreuves.
Ça coûtait cher.
Ça coûte cher.
Ça coûte très cher.
C'est très très cher, surtout à l'époque. Ça implique de prendre différents moyens de transport extrêmement coûteux, des caravelles, des chevaux.
Si on se replace dans le contexte, je pense qu'il fallait aller au moins de... Si on part de Londres, par exemple, il aurait fallu faire un Londres-Brest, j'imagine.
C'est ça. Si on convertit en euros, c'est l'équivalent d'un voyage en avion pour faire Paris-New York. Extrêmement cher.
Parce qu'effectivement, Londres-Brest, Brest-Nantes...
Brest-Nantes, sûrement, oui.
Nantes-Marseille.
Nantes-Marseille, on imagine bien.
Ça, c'est sûr. Et après Marseille-Milan, peut-être, ou Turin?
Mais je sais pas, à partir de ce moment-là, je sais pas si je prendrais le bateau ou si j'irais en calèche.
C'est vrai que tu peux passer par la Corse, et dans ce cas-là, tu fais Bastia.
Ouais. Parce que c'est joli, Bastia, en plus.
Ça peut faire un bel arrêt. Et t'es pas très loin de la Sardaigne.
En fait, ce qui est surtout problématique pour Henri VIII, c'est qu'à chaque fois qu'il va divorcer, ça implique un déplacement de plusieurs mois pour se rendre au Vatican, et le trône d'Angleterre reste vacant pendant ces périodes, quoi.
Donc, ce qui suscite pas mal de c'est le moment de faiblesse pour l'Angleterre. Donc c'est là où les royaumes voisins attaquent. C'est donc personne n'a envie d'un divorce. C'est 1) de l'insécurité, 2) des économies en moins, et 3)
une organisation pas possible.
Voilà, un bordel dans tout le royaume.
Et malgré tout, il l'aura fait 6 fois.
6 fois.
Six fois, il a eu de la chance de pouvoir le faire 6 fois, parce qu'il y a des épreuves dangereuses dans le grand chelem du divorce.
Donc, 10 épreuves, vous avez dit, c'est ça? Est-ce qu'on peut les détailler?
La plus facile, ça commence toujours par la plus facile, c'est toucher un dauphin. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à toucher à main nue un dauphin.
Et on le rappelle, à l'époque, il n'y avait pas d'aquarium.
Non, c'est un dauphin sauvage, évidemment, qu'on s'entende.
Après, sur les côtes d'Italie, il y en a pas mal, donc...
Et puis d'où l'intérêt de passer par Bastia pour aller au Vatican.
Bien sûr. Parce que on peut commencer le grand chelem en se rendant au Vatican.
Oui, en fait, c'est dès qu'on part de chez soi,
comme
quelque part.
C'est ça, comme une sorte de pèlerinage. Voilà.
Cuisiner un banquet pour le pape, en numéro 2.
Seul, absolument seul. Le candidat n'a aucune aide apportée, que ce soit des commis de cuisine ou...
Non.
Ah oui, donc on fait tout le banquet tout seul.
Absolument tout seul.
Et est-ce que c'est juste pour le pape ou aussi pour le reste de sa cour?
Le pape peut inviter à sa table des gens, mais ça doit au moins nourrir un pape.
Au moins un pape.
Et ça mange un pape à l'époque. Ensuite...
Il fallait voler la soutane d'un prêtre.
Voler la soutane d'un prêtre. Alors ce qui est étonnant quand même, parce que ça se passait au Vatican, donc c'était plutôt délicat.
Ah bien sûr, mais ils vont dormir à des moments.
C'est vrai.
Et donc c'était le moment, souvent on leur volait leur soutane la nuit, souvent on pénétrait dans leur chambre pour leur voler leur soutane, il ne fallait pas réveiller le prêtre.
Quelque part ça me paraît, après quelques centaines d'années, ça me paraît plus simple que d'aller toucher un dauphin. Qu'est-ce qui explique que ça arrive en troisième ou quatrième position ?
C'est un prêtre qui, si vous réveillez un prêtre en pleine nuit, je vous mets au défi de réussir à en sortir vivant.
Il peut se montrer très violent. Mais de toute façon, c'est pas un classement en termes de difficulté. Les épreuves, elles se valent les unes les autres. Certaines sont plus difficiles, puis aussi selon les conditions météo. Mais il n'y a pas du tout un classement qui est établi de manière à ce que le candidat aille de mal en pis ou de difficulté en difficulté. Non, c'est pas du tout l'idée.
Il faut inventer un sport de balle en numéro 4. D'ailleurs, le cricket a été inventé à ce moment-là.
Par Henri VIII, le cricket ?
Oui, par Henri VIII, lors de son cinquième divorce.
D'accord.
Il a inventé le...
Il y en a peu qui sont restés, de ces sports de balle, c'est souvent très décevant. Mais...
Non, il faut en inventer, pas forcément besoin qu'ils deviennent populaires.
Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on continue, Guillaume ?
Ah bah, c'est comme vous.
Il y en a une quand même qui est très... qui attirait beaucoup de monde, parce que les épreuves étaient ouvertes au public. Le candidat devait repeindre le plafond de la chapelle Sixtine sans dépasser.
Eh oui. Comme un coloriage.
Comme un grand coloriage. Mmh. Avec du matériel en plus des pinceaux qui ne sont pas forcément adaptés. Et tout le peuple de Rome venait dans la chapelle Sixtine regarder. Les gens s'allongeaient sur le sol pour avoir le visage tourné vers le plafond de la chapelle. Et le souverain, le candidat qui tentait de colorier sans dépasser, était lui accroché à des poulies à plusieurs centaines de mètres. Et il pouvait passer des jours et des jours essayer.
Et les Romains pouvaient tendre le bras et dire où ça dépassait de temps en temps. Et donc là, c'était des points malus.
Des points malus. Donc ça, Henri VIII, il l'aura fait 6 fois. Oui. Est-ce que ce n'est pas en fait une façon de tricher finalement ? Parce que la première fois, d'accord, on fait les 10 épreuves, c'est très difficile, etc. Mais quand on revient après, on a le temps de se préparer. Est-ce que les épreuves changent ? Est-ce que c'est toujours le même ?
Les épreuves ne changent pas.
Il y a une épreuve qui a changé parce que
relativement fixe quand même.
À cause des mais à cause des guerres en fait, il y avait plus d'import d'ananas qui venait des îles et du coup on pouvait plus faire la 8e épreuve. Mm-hmm. Mais à part ça, non, aucune épreuve n'a changé.
Mais ce qui est quand même fascinant avec Henri VIII, c'est que on le sent progresser d'année en année. À chaque fois, il va mettre beaucoup moins de temps pour réaliser les épreuves.
Il prend du plaisir.
Déjà, il est devenu ami avec le dauphin qu'il a touché, donc ça l'a aidé pour les 4, 5 et 6e divorce.
Très bien. Donc, Henri VIII, finalement, qui devient un expert des épreuves de divorce, du Grand Chelem, finalement, à quel point est-ce que l'Angleterre profite de son absence à chaque fois qu'il s'en va ? Parce qu'on se doute que pour passer ces 10 épreuves-là, il doit être absent un paquet de temps pendant son règne. Et à quel point est-ce que ça va influencer l'enfance de ces multiples enfants ?
Ça l'influence justement plutôt pas mal, parce qu'à chaque fois qu'un roi part, ou une reine, pour divorcer au Vatican, c'est son aîné qui prend sa place dans la direction du royaume. Alors, d'ailleurs, Marie Tudor va à de multiples reprises, vu que c'est son aîné, prendre la direction pendant quelques mois. La première fois à l'âge de seulement 7 ans, la reine enfant de Marie première. Donc c'est beaucoup de responsabilités pour un enfant et pour surtout Marie qui prendra donc 6 fois la place de son père, donc en cumulé 6 mois de régence.
Et qui va prendre goût au pouvoir. Là, c'est quand même très important de le notifier, ça, parce qu'on a une enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans. Qui commence à se mettre en tête que la reine,
c'est elle.
La reine d'Angleterre, c'est elle.
Mais oui,
c'est elle.
C'est elle, alors qu'elle a que...
Alors qu'elle a 7 ans, l'âge...
Pour la première fois, 7 ans, c'est ça.
Est-ce que...
Elle ne sait pas s'essuyer toute seule, c'est une enfant.
Mais elle prend des décisions.
Elle prend des décisions impactantes. Est-ce que l'histoire a retenu des décisions impactantes qui sont prises pendant ces moments de régence, on va dire, temporaire ?
La guerre avec l'Irlande. Oui. En 1548, une guerre de 6 mois avec l'Irlande, elle avait croqué une pomme de terre qui n'était pas très bonne. Elle avait demandé d'où provient cette pomme de terre. Elle provenait d'Irlande. Elle a dit qu'on déclare la guerre au pays des patates.
Au pays des patates, elle l'a dit comme ça.
Ouais.
Et ça a duré combien de temps, vous avez dit ?
Six mois.
Ouais,
quand son père est revenu, il a signé le traité de paix et bon.
Donc, une enfante aussi qu'on devine propice à la colère, finalement.
Impulsive, mais comme le sont tous les enfants.
Oui, c'est vrai.
Je veux dire, à partir du moment où vous confiez les rênes d'un royaume à un enfant, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles là-dessus.
Surtout quand vous lui donnez du pouvoir. Si vous donnez le pouvoir à un enfant, si vous perdez le pouvoir que vous avez sur lui, c'est terminé. Vous allez vous faire mener en bateau. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie Tudor.
Et puis Henri VIII va perdre définitivement ce pouvoir lors de son décès. Pendant son sixième divorce, neuvième épreuve du Grand Chelem, dompter un éléphant. Il l'avait déjà fait. Et là, il s'est fait.
Et c'est un risque.
L'animal était vif. Il s'est fait dépasser par la bête et il s'est fait écraser. Et donc, c'est comme ça que Marie Tudor accède au pouvoir, cette fois de manière définitive, alors qu'elle est âgée de 16 ans.
Mm-hmm. Donc, une épreuve du Grand Chelem qui tourne mal. On a beaucoup parlé de Marie et de son père. Pour l'instant, on n'a pas du tout parlé d'Elisabeth, qui est la demi-sœur de Marie. Quelle est la relation entre les deux sœurs ?
Il faut savoir qu'Elisabeth Tudor est extrêmement compétitive. Elle cherche tout le temps à être la meilleure, mais en tant que cadette, elle n'a pas forcément cette place dans la fratrie, ni auprès de son père. Ce n'est pas elle qui accède au trône. Et donc, chaque fois que Marie prend une action, Elisabeth doit montrer qu'elle est capable de faire mieux, et donc elle essaie d'entreprendre une action encore plus folle, encore plus forte. Lorsque sa sœur a fait adopter un chat, elle a fait adopter un tigre, pour montrer qu'elle était capable, elle aussi, de s'occuper d'un animal. Et donc voilà, c'est un peu cette personnalité à Elisabeth. Et c'est ça qui a façonné un peu le reste de sa vie.
Et puis, cette compétitivité, il faut quand même dire qu'elle est, amplifiée par des ambiguïtés sur le plan institutionnel du royaume. Parce que l'appétence d'Henri VIII pour les divorces fait que les règles établies sur la transmission du pouvoir entre un roi et ses enfants sont complètement bouleversées. Le Conseil constitutionnel d'Angleterre ne stipule pas du tout ce qu'il faut faire en cas de remariage. Et Elisabeth, elle, très vite, dès qu'elle est en âge de lire, elle va considérer que, en tant que fille de l'actuelle épouse du roi, c'est à elle que revient la couronne.
Ah oui, donc il y a vraiment une rivalité autour du pouvoir
autour
et de qui devrait être reine.
Absolument.
Mmh. Et c'est vrai que c'est pas clair du tout et ça marque la vie d'Elisabeth.
Très bien. Alors cette rivalité, on va la détailler un peu plus juste après la pause musicale.
J'aurais cru douter, overdose de conscience. Pourtant t'étais devenue ma sœur de cœur, personne n'aurait dû nous séparer. Destinée ou malchance, tu vois j'ai beau chercher les raisons, mais ce que tu m'as fait je vais pas cautionner. Maintenant j'ai plus confiance, même si ça fait 2 ans que ça s'est passé, même les détails j'ai pas oublié. Pourquoi ça fait si mal? Tu comprends combien j'ai...
C'était Vita avec Ma Sœur dans l'histoire avec un grand I. Alors, on venait d'introduire la grande rivalité entre Marie et Elisabeth Tudor, qui vont devenir les premières reines de l'histoire d'Angleterre, première reine et demi-sœur de Henri VIII. Alors, pour que ce soit clair, cet arbre généalogique très compliqué, est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de la descendance d'Henri VIII ? On a parlé de 6 mariages, donc on se doute qu'il y a pas mal d'enfants dans cette affaire-là. Voilà, est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'ils vivent ? Est-ce que c'est que des enfants anglais ? Est-ce qu'il a fait le tour d'Europe ? Bref, on sait qu'à l'époque, c'est très compliqué.
Alors, avant toute chose, quand on parle des 6 mariages, ça n'inclut pas toutes les relations qu'a pu avoir Henri VIII. Donc les 6 mariages, ça va vraiment être des mariages anglo-anglais, avec des Anglaises, principalement de la cour de Londres. Mm-hmm. Ensuite, Henri VIII va avoir, à travers l'Europe, des centaines et des centaines de relations. On lui connaît des descendants en France, à Rome, évidemment.
Évidemment, tout le temps passé.
En Espagne, en Autriche. Pour ce qui est des mariages, chaque mariage implique un nombre d'enfants entre 5 et 10. Ce qui nous fait un total de... alors, je n'ai pas de calculette sous les mains, mais je vais poser un produit en croix. On a donc 6 mariages fois une moyenne, donc on va dire de 8 à peu près. 6 fois 8.
Je pense que pour ce qui n'est pas des relations officielles, on peut compter au moins 2.
Oui, c'est ça. Au moins.
Donc,
au moins
2. On pose 12 et je retiens 1 et 6 fois 8.
Alors là, ce que vous ne voyez pas, auditeurs et auditrices, c'est Antoine Leflair qui fait son produit en croix. On le voit ici, hein, sur son petit calepin.
Je crois que vous avez oublié une retenue. Là.
Ah, pardon. Donc on est... Oui, c'est ça. On est entre 48 et 58 enfants.
Légitime. Avec auxquels s'additionnent au moins 200 enfants illégitimes à travers l'Europe.
Donc ça fait beaucoup.
Ah bah,
Est-ce qu'on peut dire qu'on est quasiment tout à chacun enfant d'Henri VIII, quelque part ?
Ouais, les Beatles l'ont dit en tout cas. All the Stones of Henry VIII, la chanson sur l'album blanc.
C'est vrai.
Donc bah, finalement, moi je le dirais, je suis fan des Beatles.
C'est vrai que vous êtes. Quand on va chez Julien, il y a toujours un vinyle des Beatles qui tourne.
Un tourne-disque.
Toujours.
Vous avez dit, ouais.
Toujours.
C'est aussi pour ça qu'en Angleterre, l'appellation sister, brother, les gens s'appellent frère, mon frère, ma sœur, à chaque fois qu'ils se rencontrent encore aujourd'hui.
Ouais, c'est bien plus fort que quand on peut l'employer par chez nous.
Mmh. Très bien. Alors, donc on a parlé entre 48 et 58 enfants dans la descendance officielle, 200 de façon plus large. Parmi ces 48 à 58 enfants, on en retrouve pourtant que deux qui se battent vraiment pour l'accès au pouvoir. Que se passe-t-il avec les autres ?
Les autres, ils sont là.
Mais ils sont juste là.
Ils sont juste là. On est évidemment toute la cour d'Henri VIII, lors de son décès, se retrouve au château de Kensington, à Londres. Que ce soit les femmes, les anciennes épouses même, qui restent à la cour. C'est comme ça que ça se passe. Et tous les enfants... effectivement, comme l'a fait...
Ça ressemble plus à une cour de récréation, à ce moment-là.
Évidemment, comme l'a fait Anthony, on ne sait même pas vous dire les prénoms de tout le monde aujourd'hui. C'est même pas quelque chose qui a été référencé, écrit, on n'a pas pris la peine
C'était...
Ce qu'on sait tout de même, c'est que certains n'avaient même pas de prénom.
Non.
Henri VIII ne s'était pas donné la
peine. Sur les derniers, non.
Sur les...
Comment on faisait pour les différencier?
Bon, c'était le blond, le petit au grand pied, le... toi là-bas.
Au début, il faut savoir que vous savez le système qu'on a avec les animaux, pas pour les années avec les lettres.
Ça, oui, ou par exemple...
Ça, c'est une invention d'Henri VIII, par exemple.
C'est une invention d'Henri VIII pour ses propres enfants.
Pour ses propres enfants. Donc, et là, vous imaginez, donc, entre 48 et 58, à la cour, plus de 200 répartis dans tout le royaume. Donc, au moment des naissances, ils regardaient en quelle année on était. Année des S, Sam,
Samantha.
Samantha. Et...
Mais quelquefois même, un numéro suffisait. Un simple numéro.
Un simple numéro.
Un simple numéro. 42, par exemple.
42,
par exemple. Par exemple.
Très bien. Donc, ça fait beaucoup de monde à son enterrement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parlait de son enterrement, là. C'était pour évoquer quoi?
Mais parce qu'à partir du moment où Henri VIII est décédé, la rivalité entre Élisabeth et Marie Tudor a pris une tournure... après une tournure politique, en fait. Ouais. Là où, au départ, elle n'était qu'une rivalité de sœurs, qu'une chamaillerie.
Marie a accusé Élisabeth d'avoir assassiné son père. Elles s'accusaient mutuellement l'une et l'autre.
Logique pour discréditer l'autre et accéder au pouvoir.
Elle le savait à ce moment-là, à la mort d'Henri VIII, ça allait être une des deux. Mm-hmm. Qui de l'aînée ou de la dernière fille légitime prendra le pouvoir?
Et chacune, à ce moment-là, essaye d'embarquer avec elle...
le dortoir.
Le dortoir, avec tous les enfants. Donc, on se retrouve quand même avec un espèce de concours de bites, pour ainsi dire, entre les deux sœurs.
Très bien. Donc, un concours pour savoir qui accédera... Enfin, qui deviendra reine officiellement en première. On sait, l'histoire le dit, que c'est Marie qui accède au trône... la première. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi?
Oui, bah, effectivement, le Conseil constitutionnel a tranché, ce sera l'aîné.
Ce qui paraît, somme toute, assez logique vis-à-vis de l'histoire.
Bah, en tout cas, l'aîné, l'enfant la plus âgée, souhaitant accéder au trône. Et comme elle n'était que de souhaitant accéder au trône, bah, voilà, c'était elle qui a eu la primeur. Mais Élisabeth, à partir de ce moment-là, a fomenté un plan et était très maligne. Avec son frère Thomas Matthews, elles ont mis un plan et elles ont décidé que Thomas allait épouser Marie Tudor. Et Marie tombe amoureuse de Thomas et elle épouse Thomas Matthews, qui était en fait dans le coup.
Il était dans le coup.
Et qui était son demi-frère.
Son demi-frère.
Son demi-frère, ouais.
Bah, à l'époque, ça choquait personne.
Ça ne choquait personne. C'était très courant.
Surtout pas dans les royautés.
Et du coup, quel est le plan derrière ce mariage?
Le plan, c'est d'amener Marie Tudor à un divorce. La forcer à divorcer et à passer à travers les épreuves. Le grand chelem du divorce.
Le grand chelem du divorce, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte à cette époque-là? Marie, à quel âge? Ça se passe comment? Est-ce que le mariage est heureux au début?
Au début, oui, parce qu'il faut faire croire que tout ça est bien naturel et que ce n'est pas un plan fomenté entre les deux frères et les frères et sœurs. Mais très vite, au bout de
4 ans, 4-5
ans, ils mettent la machine en marche et Thomas Matthews devient insupportable. Il pique des crises tout le temps, il emprunte toutes les calèches.
Il laisse traîner ses poils.
Il laisse traîner ses poils dans la douche.
Non, il y avait des chaussettes de Thomas Matthews dans tout le château. On retrouve des écrits là-dessus.
Ah oui, donc ça devient très difficile à vivre, finalement. Oui. Vraiment, là, on parle de...
D'un gros bébé.
D'un gros bébé.
Oui. D'autant qu'elle s'était imaginé avec lui une vie de rêve. Il faut savoir que Thomas Matthews est très bon comédien. On garde encore même des traces de spectacles qu'il a pu donner à la cour, qu'il organisait. Donc, c'est pas par hasard que Élisabeth va choisir de s'associer à son demi-frère Thomas Matthews, puisque de tous les 40-50 enfants, c'est celui qui avait la plus grande appétence pour le jeu, pour la comédie. Et qui va être capable, pendant 4 ans, de jouer la comédie de l'époux parfait, qui va faire rêver Marie Première, jusqu'au jour où tout bascule et où elle ne peut plus le supporter.
C'est un plan très cruel, mais qui porte ses fruits, puisque Marie Tudor demande le divorce en 59, et elle monte dans le premier bateau pour Brest.
Ah oui, donc là c'est assez expéditif. L'objectif, c'est d'aller à Rome sur les traces de son père pour le grand chelem du divorce à son tour. Comment ça se passe? Est-ce qu'à cette époque-là, c'est toujours les mêmes épreuves? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau peut-être pour elle à cette époque?
Non, mais on est moins d'une dizaine d'années après. Henri VIII est mort en 53, on est en 59, ça fait très peu de temps.
Donc c'est la routine finalement.
C'est la routine et malheureusement pour elle, ça, les épreuves n'ont rien changé, n'ont pas du tout changé effectivement. Et c'est là où Elisabeth a été très intelligente, c'est que au château, elle avait remarqué quelque chose qui était que Marie avait tendance à un peu gonfler quand on servait des fruits exotiques. Ce qui fait qu'arriver...
Une potentielle allergie,
tout à fait, qui lui sera fatale, puisque arriver à l'épreuve numéro 8, celle des ananas.
Celle des ananas.
Celle où on doit, avec les ananas...
faire une statue représentant le pape actuel.
Tout à fait.
Et la gobée.
Et la gobée. L'allergie de Marie Tudor se déclare violemment, crise anaphylactique terminée en moins de 3 minutes, c'est terminé pour Marie Tudor.
Alors qu'elle avait réussi les 8 épreuves précédentes, ce qui était quand même pas gagné, hein, parce que
elle a eu le plus gros dauphin jamais attrapé.
C'était un nouveau dauphin cette fois-ci.
Il y en a plusieurs. Hein. Henri VIII choisissait d'attraper toujours le même.
Les dauphins meurent et vivent. Oui. Il y a des naissances chaque année.
Oui.
Non, mais puis elle avait le vertige aussi, donc c'était aussi impressionnant de réussir à peindre le plafond de la chapelle Sixtine.
Et oui, et vraiment une très belle peinture.
Alors, qu'est-ce qui explique, parce que là, on est quand même au XVIe siècle, il n'y a pas d'ananas pour les rois et reines d'Angleterre. C'est la première fois qu'elle mange ce fruit.
Comme on vous l'a dit, il y avait des problèmes d'importation à l'époque. Mmh. Et donc, l'épreuve a été réinstaurée au moment du décès d'Henri VIII.
Ok, donc là, c'est une allergie importante qui est passée complètement sous les radars par coïncidence temporelle, historique.
Il y a aussi une question de quantité, parce qu'il est possible que Marie Tudor ait consommé l'ananas pendant son enfance, avant de participer au grand chelem du divorce. Simplement là, il faut bien imaginer quand même que l'idée, c'est de gober une statue complète du pape en ananas.
On parle de quelle taille de statue?
C'est plusieurs dizaines de kilos d'ananas à ingurgiter
C'est une grande statue.
C'est une grande statue, c'est pas croqué dans un ananas. Si
elle est à l'échelle, mais elle est dense.
Eût-elle dû gober un seul ananas, elle aurait peut-être survécu, mais là... Ouais.
Quand même. L'allergie se mêle à l'indigestion. En réalité, être honnête,
c'est déjà dur même sans. Il y a déjà des gens qui ont.
Vrai que on nous demanderait aujourd'hui de gober une statue de pape en ananas, on finirait pas très bien non plus.
Après, les ananas ne sont pas les mêmes qu'à l'époque aujourd'hui. Hein, c'est
beaucoup plus acide. Oui, plus d'eau.
Oui.
Donc, cette statue d'ananas sonne la fin de Marie Ier. Qui décède à Rome, du coup, avec la statue. Qu'est-ce que ça veut dire pour Elisabeth?
Elle accède au pouvoir, parce que c'est l'enfant la plus âgée souhaitant accéder au trône.
Marie, pendant ce temps-là, n'a pas eu d'autre enfant qui aurait pris le pas sur la succession.
C'est Thomas Matthews qui est roi régent par intermittence pendant le mois où est censée partir, en tout cas, Marie. Et donc là, Elisabeth monte sur le trône avec lui.
Et ils finiront d'ailleurs par s'épouser.
Oui.
Ça ne choque personne. Enfin, ça ne choque que moi, cette affaire.
Les mœurs n'étaient pas très différentes, surtout dans la royauté à l'époque.
Très bien.
Je voulais simplement préciser qu'ils se marient plus par amitié que par amour.
Oui, bien sûr. Pour éviter de potentiels divorces. Ils ont appris de leurs erreurs.
Ils ont appris aussi à fonctionner ensemble. C'est un duo qui fonctionne du tonnerre, très efficace, très soudé aussi. Donc ils avaient tout intérêt à continuer à travailler ensemble, puisqu'en réalité, un concubinage dans des sphères aussi hautes du pouvoir, c'est un travail plus qu'une histoire d'amour à proprement parler.
D'ailleurs, on pense que John Williams, le fils de Elisabeth Tudor, est illégitime. Enfin, ils ont eu de nombreux amantes, chacun de leur côté. J'ai envie de dire, c'était purement administratif, cette affaire.
Et à titre informatif pour nos auditeurs, un petit bonbon que je vous donne, Thomas Matthews aura une belle carrière ensuite et il jouera dans des pièces de Shakespeare lui-même.
Donc on peut être roi et garder sa carrière de comédien, comme quoi finalement tout est possible.
Tout est possible.
Tout est possible. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'histoire avec un grand i pour un épisode aujourd'hui consacré à Marie et Elisabeth Tudor, première reine d'Angleterre. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'histoire avec un grand i. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'histoire avec un grand i. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand i afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.